L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro, le numéro 10 de l'Oz Actuali. Voilà, nouvelle émission effectivement depuis la rentrée. Alors, il faut qu'on excuse aujourd'hui un certain nombre de nos membres.
Nos chroniqueurs.
Voilà. Notre amie Caroline est avec Monsieur Souris sur...
Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, vacances avec Monsieur Souris.
Voilà, sur la neige. Pour la remplacer, nous avons la grande joie d'accueillir Anne-Marie. Anne-Marie avec qui nous avons passé quelques années.
Quelques bons moments.
Hein,
donc bonjour.
Voilà, et donc c'est un plaisir de t'accueillir, merci. Anne-Marie, dans cette émission.
Merci.
Eric nous rejoindra dans quelques instants. Donc nous allons accueillir notre invité du jour, Léa Parsi, de la boutique Fleur Chic Amande.
Bonjour.
Bonjour. Alors évidemment, on va vous parler de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, hein.
Approche.
Voilà,
donc c'est un message subliminal.
C'est ça.
Il est temps de commencer à s'y préparer. Alors, sachant que les chroniques qu'on a fait avant les fêtes, c'est-à-dire le chocolat,
le foie gras, tout ça, ça marche aussi pour la Saint-Valentin en fait.
Voilà. Enfin.
Mais en plus, on peut rajouter des fleurs.
Voilà.
Voilà. Donc en fait, là, on fait la liste, c'est ça.
Ça, on fait notre.
Le 14 février.
C'est exactement ça. Alors, voilà, au programme aujourd'hui, donc on parlera effectivement de Saint-Valentin et de fleurs. On parlera aussi de biomimétisme. Donc, ce sera Eric qui nous en parlera tout à l'heure. Nous parlerons de la juste rémunération des agriculteurs, c'est ça, Anne-Marie ?
Oui, c'est comment les agriculteurs valorisent aujourd'hui leurs produits.
Voilà. Et puis, nous parlerons de fake news.
De fake news, oui. De la chasse aux fausses infos et aux fausses rumeurs sur les réseaux sociaux notamment et dans les médias.
Voilà.
Oula, t'avais du boulot, non ?
Ouais.
Voilà, et puis évidemment, notre revue de presse tout à l'heure, en fin d'émission. Et on commence tout de suite après la virgule par cette interview, le début de cette découverte du parcours de Léa Parsi. La virgule ne part pas. Et voilà, Eric nous a rejoint.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Et donc on commence avec Léa Parsi. On va vous demander peut-être de nous dire, pour commencer, un petit peu qui vous êtes, comment vous êtes devenue fleuriste peut-être.
Alors au départ, c'était pas une passion. J'ai suivi d'abord un parcours assez classique. Je me suis un peu spécialisée dans l'horticulture avec un BTS. Et c'est après que je me suis plus spécialisée avec un CAP fleuriste que j'ai fait en apprentissage à Marvejols.
Alors Léa, vous ne le précisez pas, mais vous êtes quand même jeune. Vous pouvez nous dire quel âge vous avez ?
J'ai 24 ans.
24 ans, et vous avez donc votre boutique à Amande depuis combien de temps ?
Ça va bientôt faire 3 ans.
Oui, donc on sent que voilà, vous avez été très jeune.
Oui, c'est vrai que c'est un choix à faire. C'est un métier où ce n'est pas facile de trouver du travail. Souvent, les fleuristes travaillent seuls. Surtout dans nos régions, il n'y a pas de grands magasins, donc l'opportunité s'est présentée sur Mende, donc j'ai sauté le pas.
Et ça ne vous a pas fait peur à 21 ans, justement, de reprendre une boutique comme ça ?
Si, ça fait peur, mais j'avais envie de le faire, et puis je pense que c'est quelque chose que j'aurais sans doute regretté après, donc voilà, j'ai sauté le pas.
Et ça faisait partie d'un rêve, du coup ?
C'était... Au départ, non. Et puis après, quand je suis allée dans le secteur de la fleur, c'est vrai que, voilà, être son propre patron, c'est toujours... c'est pas mal. Et c'est une petite ville, donc on arrive à s'intégrer, plus ou moins.
Et aujourd'hui, vous travaillez seule, du coup, dans votre boutique ?
Oui. Bon, c'est quand même, c'est le début, ça fait que 3 ans, donc pour l'instant, je reste seule.
D'accord, parce qu'il se passe plein de choses. Vous avez aussi ouvert un nouvel étage, du coup, à votre boutique,
oui,
un petit peu,
pour
diversifier.
Oui, en fait, c'est vrai que la boutique, elle est un duplex, et je fais toujours des ateliers d'art floral. Et c'est vrai que cet étage, il était un peu sous-exploité, donc voilà, la déco, je trouve que c'est un produit qui est complémentaire avec les fleurs et les plantes.
Mais qu'est-ce qu'on y trouve justement à cet étage ?
Voilà, vous y trouverez de la déco, vraiment, des plaids, des coussins, des choses assez tendances. Il y a aussi des fleurs artificielles, c'est voilà, tout ce qui n'est pas du frais.
Et vous pouvez nous parler un petit peu justement de vos ateliers, parce que moi par exemple j'y ai participé, je trouve que c'est super, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, sur quelle thématique vous travaillez avec?
Généralement c'est sur le thème par exemple de la saison, en ce moment ça va être l'hiver, on va attaquer le printemps, ou des fêtes Noël, Pâques, Saint-Valentin, j'essaye de toujours trouver un thème. Ça se passe le soir généralement, donc quand les personnes arrivent il y a déjà la création de fêtes. Et après, je la refais avec les personnes qui sont inscrites en leur expliquant les techniques. Et c'est souvent, chacun fait un peu comme il veut. J'explique les bases et après, c'est vraiment personnalisable et on passe toujours de très bons moments.
Moi, c'est vrai que pour le coup, j'adore. Je suis assez fan, même si je ne viens pas, je ne peux pas forcément venir à tous les ateliers, mais je trouve que c'est super.
C'est une belle idée de cadeau aussi, moi j'ai fait.
Oui,
cadeau.
Ah bah oui.
Et ça fonctionne comment ce système? Enfin, c'est on paye pour l'atelier.
Voilà, en fait, je fais un programme souvent pour 2-3 mois à l'avance, on s'inscrit. Et après, voilà, c'est 30 euros l'atelier et on repart avec la création qu'on a réalisée.
Ouais, sachant que 30 euros, pour le coup, c'est pas cher parce que du coup, on a quand même des conseils d'une professionnelle. On repart avec les fleurs et la composition.
Oui, il y a
et
la
matière. Vous avez passé du temps avec nous, quoi.
Oui, c'est.
C'est une façon de fidéliser sa clientèle.
Les clientes qui viennent, c'est vraiment des clientes qui sont très régulières. Et je pense que pour elles, c'est un moyen de passer un moment entre copines. Maintenant, elles se connaissent bien et c'est un bon petit groupe.
Il n'y a que des femmes qui viennent.
Pour l'instant, oui. Ce n'est pas fermé aux hommes, mais pour l'instant, il n'y a que des femmes.
Il faudrait faire une session spéciale Saint-Valentin, justement, pour les hommes.
Les hommes, pour ce genre de choses, sont peut-être un peu plus réservés. Et,
ouais. Mais d'ailleurs, on a deux hommes autour de la table. Vous seriez intéressé par ces ateliers?
Moi, j'ai déjà fait des ateliers décoration, un peu comme ça. Là. C'était pour le salon du recyclage et du réemploi. Donc, j'avais déjà fait un atelier, donc pourquoi pas, oui. Ouais.
Et toi, Guillaume ?
Moi, j'aime bien acheter des fleurs, en fait. Mais...
Pas forcément passer du temps pour proposer des bouquets.
Non, non.
Et du coup, il y a une thématique Saint-Valentin en ce moment ?
La rose rouge, pour changer.
Non. La Saint-Valentin, je l'avais abordée l'année dernière. Et comme les ateliers, je fais toutes les 2 semaines. On a fait l'hiver la semaine dernière. Et la semaine prochaine, non, ce ne sera pas plus sur la Saint-Valentin. Parce que comme c'est des clientes qui viennent très, très souvent, je ne peux pas faire les mêmes choses, donc...
Voilà. En sachant que dernièrement, il y a eu centre de table, il me semble.
Oui, toujours à Noël, il y a centre de table. C'est souvent des compositions, puis quelquefois des bouquets. C'est varié.
Et ça se passe le soir?
Ça se passe le soir à la fermeture à 19h. Et généralement, ça dure une heure et demie, le temps qu'on s'installe.
D'accord, voilà, c'est effectivement une idée d'activité tout à fait...
Oui, enfin moi je trouve que c'est remarquable parce qu'en plus pour vous Léa, vous avez des journées forcément plus longues, donc forcément aussi plus fatigantes, mais je trouve que c'est super pour la clientèle et puis comme tu le disais Guillaume, ça permet aussi de fidéliser les gens et c'est peut-être aussi une des pistes pour fidéliser et pour avoir toujours du monde dans sa boutique.
Et puis ça fait vivre aussi un petit peu le centre-ville, des commerces de proximité,
c'est
des belles idées.
Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre boutique aussi? Parce que on en a parlé, un peu de fleurs, un peu de déco, mais les fleurs, elles viennent de loin, elles viennent de tout près.
Ça dépend. Comment ça se passe? Les fleurs de saison, j'essaye de les acheter françaises, ce que je peux trouver. Après, la plupart des fleurs, je les achète directement en Hollande. Donc, tout passe par la Hollande, mais ça vient de plus loin. Souvent, les roses viennent du Kenya ou d'Équateur. Maintenant, on en trouve de... La production française revient quand même, donc on arrive à se débrouiller. Après, pour tout ce qui est un peu plus original, forcément, ça vient d'un peu plus loin.
Et j'imagine qu'il y a toute une logistique aussi pour pour recevoir ces fleurs régulièrement, un système de commandes,
aussi,
de conservation. Voilà,
j'ai la chance de pouvoir avoir 2 arrivages par semaine, voire 3. Donc ça, tout arrive chez mon grossiste qui est à Montpellier, donc s'il n'est pas loin, il nous livre plusieurs fois par semaine. Et voilà, ça permet aux clients d'avoir des fleurs toujours fraîches. Et après, moi, j'ai une chambre climatique. Et puis, bon, après, les bons conseils pour les clients pour conserver les fleurs le plus longtemps possible.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut bien les recouper, toujours. Quand on vous offre des fleurs, c'est le principal. Recouper toujours les tiges, ça permet à la fleur de boire de suite.
Alors, on les recoupe d'ailleurs comment? Avec des ciseaux, au couteau?
Avec ce qu'on a.
Oui, parce que c'est souvent un risque d'accident ménager relativement
important.
Au couteau pour les plus pour ceux qui y arrivent, sinon un sécateur, c'est très bien.
Sécateur,
voilà.
Et on en coupe, je sais pas, au niveau des centimètres, ça représente combien?
C'est juste 1 ou 2 centimètres. En fait, souvent les tiges des fleurs sèchent très vite, donc c'est pour que la coupe soit bien fraîche. Surtout les roses, il faut bien les recouper.
Mais une coupe en biais ou?
Si possible, oui. Un biseau, c'est toujours mieux.
On aura tous les conseils pour avoir de beaux bouquets.
Mais pour faire durer vos bouquets.
Mais pour ça, il faut nous en offrir.
Tout à fait. Et du coup, c'est quoi qui est le plus tendance en termes de fleurs ou de composition florale en ce moment?
La rose, c'est toujours l'incontournable. Là, on est à la Saint-Valentin, mais toute l'année, la rose, on ne peut pas se tromper. Sinon, ce qui plaît pas mal, c'est les bouquets avec des fleurs exotiques un peu plus en hauteur, des bouquets un peu plus modernes. Voilà, il y a le côté classique qui marche toujours, et puis de temps en temps, on peut faire quelques compositions plus originales.
Et j'ai l'impression, bon après c'est peut-être parce que j'ai des amis qui sont comme ça, mais qu'aujourd'hui on demande aussi des fleurs qui ne demandent pas beaucoup d'entretien, justement, une goutte d'eau par-ci, par-là.
En plantes, c'est tout ce qui est plantes grasses, cactées, tout ça, c'est vraiment ce qu'on vend beaucoup. Parce que les gens veulent pouvoir partir 2-3 semaines en vacances sans demander aux voisins de venir arroser les plantes. Donc voilà, tout ce qui demande moins d'eau, c'est sûr que les gens préfèrent ouvrir ça.
Oui, parce qu'il y a l'activité fleurs coupées, on va dire, mais il y a aussi, j'imagine, des plantes qu'on peut acheter chez vous.
Voilà, c'est ça, les plantes, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça, on ne demande pas d'entretien, quoi. Ce que les clients nous demandent.
Et est-ce que les fleurs artificielles, du coup, ont toujours la cote? Il y a eu une époque où on en voyait beaucoup, partout, dans les salles d'attente, chez les médecins, dans nos salons, chez les grands-parents. Est-ce que ça a toujours la cote ou est-ce que, du coup, on préfère plus les fleurs naturelles aujourd'hui?
Alors, c'est un produit que, jusqu'à présent, je ne travaillais vraiment pas beaucoup. J'en ai un peu maintenant parce qu'on me le demande. Mais il y en a toujours un peu, mais c'est moins... Maintenant, vous avez les fleurs stabilisées, c'est ce qu'on appelle les roses éternelles. Maintenant, c'est pour toutes les fleurs, mais c'est une vraie fleur qui a été traitée. Donc, ça fait quand même plus vrai que de l'artificiel, mais ça demande zéro entretien et ça tient très longtemps.
Alors moi, si j'ai un message à faire passer, je veux bien ça comme cadeau pour la Saint-Valentin parce que je suis très mauvaise en entretien de fleurs. Donc, les fleurs stabilisées, c'est pas mal, en fait.
Oui, et puis ça reste en plus.
Voilà, c'est ça. C'est fleurs naturelles, mais en même temps, il n'y a pas besoin de...
Non, je pensais que tu voulais des fleurs artificielles ce qu'on trouve sur les caveaux. Alors, si je disais, mais pourquoi ça?
Non, du tout. D'accord. Non, mais fleurs stabilisées, ça peut être pas mal. Une bonne option, une bonne idée,
c'est sûr.
Alors justement, tu parlais de caveau, Anne-Marie. J'imagine que la saison d'un fleuriste, c'est rythmé par certaines périodes dans l'année. Il y a évidemment la Toussaint, c'était ça qui me faisait le lien. Noël, la Saint-Valentin,
la fête des mères.
La fin de l'année peut-être aussi avec, l'année scolaire en remerciant les maîtresses.
Au mois de juin, début juillet, oui.
Les mariages.
Oui.
Oui, en fait, vous arrêtez pas pendant l'année, en fait. Hein.
Non, c'est vraiment rythmé par les fêtes. Et c'est vrai qu'il y a le 1er mai où on offre le muguet.
Il y a une activité tout au long.
Une fête à préparer. Une fois qu'il y en a une qui est passée, on pense déjà à la suivante.
Et c'est pas lassant, justement, que ça revienne toujours comme ça?
Non, parce que du coup, on a des périodes où on a moins de travail, des périodes qui sont un peu plus chargées. C'est jamais, chaque année est différente, on fait jamais les mêmes fêtes, ça ressemble jamais.
Bon, on reviendra tout à l'heure sur la Saint-Valentin, on va faire une petite pause en écoutant Eric qui va nous parler de biomimétisme, c'est ça?
C'est ça.
Allez, c'est juste après la virgule, si elle part cette fois-ci. Non, elle n'a pas envie, c'est pas grave. C'est parti, c'est Eric donc qui nous fait sa chronique.
Et donc justement, le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, non, je ne vais pas vous parler d'un nouveau type de stage bien-être pour se sentir bien dans sa peau, façon retour aux sources, je vais retrouver ma part animale en moi. Non, ce n'est pas non plus un cours de théâtre contemporain qui demanderait de faire le cri du bruit des feuilles dans le vent ou le déhanché du flamant rose. Non.
On aurait du mal.
C'est ça. Le principe n'est pas neuf, pourtant, il était cher à Léonard de Vinci qui disait « Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ». Donc, il a même expérimenté sur certains dessins de machines volantes inspirées de ses observations des oiseaux. Donc, dans nos sociétés modernes, nous avons tendance à oublier que nous vivons dans un univers compétent, que nous faisons partie d'une planète intelligente et que nous sommes entourés de génies. Donc, le biomimétisme est ainsi l'un des grands enjeux technologiques de demain. Les plus belles inventions seront celles qui sauront s'inspirer des animaux et des végétaux. On pourra ainsi éclairer nos villes donc, grâce aux méduses, ou concevoir les GPS sur les modèles des fourmilières. Donc les exemples sont innombrables, j'en donnerai certains tout à l'heure. Donc déjà, est-ce que vous avez une idée du domaine qui s'est le plus inspiré de la nature ?
La science, du coup ?
Non, pas forcément la science. Ça va être l'architecture, dans les domaines qu'on connaît le plus. Donc l'architecture du futur construira en imitant la nature, parce que c'est la plus rationnelle, la plus durable et la plus économique des méthodes. Cette citation est du célèbre donc Antoni Gaudi, donc l'un des pionniers justement de l'imitation des formes du vivant.
Oui, là, il est vraiment
par sa créativité
complètement dans cette logique là. Ouais.
Dans la durabilité, il y est vraiment bien. Du reste, on le voit. Du reste, la Sagrada Familia, elle est toujours pas finie.
Oui, c'est pas de mal avec que voilà, ça permet.
C'est ça. Il y a un autre.
Ça commence à ressembler à quelque chose.
Oui,
oui. Il y a un autre monument célèbre, donc le monument français le plus célèbre.
Je sais pas, la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel. Oui, mais justement, la Tour Eiffel, elle est inspirée de l'os le plus dur du corps humain, du fémur en fait. C'est en recopiant les lignes en fait de force du fémur que les ingénieurs ont reproduit la Tour Eiffel. Voilà, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, c'est l'inspiration de la nature. Il y a des grands stades aussi maintenant, les grands stades de foot, qui sont basés style toile d'araignée. Donc ça permet de couvrir le plus de capacités possibles, mais avec le moins de matériaux possible. Donc voilà, moi je me suis intéressé au biomimétisme, c'est en voyant une vidéo qu'un ami m'a montrée. Alors c'est un jeune homme de 29 ans, Idriss Aberkane.
Oui, qu'on a beaucoup entendu
voilà,
parler
qui commence à faire le buzz justement avec ses vidéos sur le biomimétisme.
As-tu lu son livre ?
Non, je n'ai pas lu son livre encore. Tu l'as lu ?
Non. Voilà. On pourra en parler peut-être prochainement. Voilà.
Donc lui, par exemple, il dit « La nature est comme une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. » Donc déjà, les leçons qu'on peut retenir de la nature, c'est déjà qu'elle n'utilise que l'énergie dont elle a réellement besoin, et principalement l'énergie solaire. Elle recycle tout et elle parie sur la biodiversité. Donc, si on peut revenir sur certains exemples, sinon j'ai certains autres exemples là qui vont arriver, et sur des innovations très technologiques. Par exemple, les poissons hélices, ça n'existe pas. Enfin, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc en fait, il y en a un de cette constatation assez simple. Il est parti sur une nouvelle façon d'essayer de créer l'électricité. Donc il a créé une membrane qui va faire les ondulations du poisson de l'arrêt. Et donc, en fait, avec les ondulations, il a réussi à créer une nouvelle façon de pouvoir créer de l'électricité. Et ça ne nuit pas ni aux poissons, ni aux cétacés. C'est-à-dire que là, c'est dangereux pour personne. Un autre exemple, alors ça va être après une balade en nature. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, on a des petites graines de bardane qui restent collées aux vêtements, qu'on a du mal à arracher, ce genre de choses. Et bien, c'est pareil. Grâce à ça, en fait, ils ont réussi à reproduire un peu ce que faisait cette graine. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a inventé le velcro.
Et oui.
Voilà, c'est du genre de... Il y a un autre animal, alors c'est un des animaux que je déteste le plus au monde. C'est le moustique. Le moustique, alors ça, j'ai...
C'est petit, mais qu'est-ce que ça peut être pénible.
Le moustique. Eh bien, c'est pareil, des chercheurs japonais, en fait, ils ont reproduit la trompe du moustique pour faire des aiguilles de seringue, pour faire des piqûres qui ne feront pas mal. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Il y a aussi un train à grande vitesse au Japon. En fait, ils ont fait l'avant du train. Ça ressemble en fait au colibri. Et en fait, c'est qu'ils sont aperçus que, en fait, le colibri, quand il rentrait dans l'eau, il perdait pas de vitesse. Et donc, en fait, ils se sont basés là-dessus. Et là, ils essayent d'étudier aussi les chouettes, la chouette. Comme la chouette, elle ne fait pas de bruit. Pour essayer de faire des trains avec moins de bruit, ils se basent sur la chouette. Donc voilà, tout le genre de choses, d'inventions qui sont en train d'être créées. Après, c'est vrai que c'est... Il faudra certainement faire attention à tout ça, parce que justement, si on observe la nature, eh bien, pour pouvoir créer tout ça, il ne faudrait pas non plus que ça fasse l'effet inverse, c'est-à-dire que ce soit encore plus d'industrialisation et que ça reste quand même dans des domaines assez locaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que sur l'innovation technologique high-tech, mais que ce soit sur un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ce que nous vivons qu'il faut regarder. C'est tous les principes qui sont à côté. C'est-à-dire que les animaux, en fait, elles s'approvisionnent localement. Donc c'est vrai qu'on commence à le faire, ça aussi, avec le type d'AMAP ou ce genre de choses.
Ça tombe bien, on va en parler voilà. Tout à l'heure.
Ah, mais tu vois, elles transforment l'énergie solaire, elles ne se servent que ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire qu'elles ne font jamais de surproduction. Et c'est pareil, elles utilisent les déchets des autres. C'est-à-dire que dans une forêt, par exemple, rien ne se perd. C'est-à-dire que tout ce qui est détruit, en fait, revient dans le sol et aide à nourrir le reste. Donc voilà, c'est pas une nouvelle exploitation de la nature, mais c'est une meilleure connaissance de la nature qu'il nous faut et une recherche et un développement voilà, qui vont être peut-être un peu plus durables. Et vivre grâce à ces principes n'est pas une lubie passagère de bobo en mal d'inspiration. C'est un moyen de protéger tout l'écosystème et donc notre avenir.
Bien, merci Eric pour cette découverte du biomimétisme, pour ceux qui ne le connaissaient pas, en tous les cas de son implication dans notre vie quotidienne. Alors c'est le moment de la coupure musicale et c'est donc le choix de notre invité. Et alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu du mal à choisir, mais alors pourquoi ce titre et quel titre?
Alors c'est Je vole de Michel Sardou qui a été repris par Louane. C'est une chanson qui me parle beaucoup, je trouve que ça représente bien ce qu'on ressent quand on doit partir de chez soi. Et c'est une chanteuse que j'aime beaucoup aussi, on a à peu près le même âge. On peut facilement s'identifier, donc voilà.
Allez, on écoute « Je vole » de Louane.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère. Comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter.
je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.
Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de Los Actuali depuis nos studios de la rue des Clapiers. Aujourd'hui, hein, nous ne sommes pas en déplacement, ça viendra peut-être bientôt. Et nous poursuivons la découverte de l'activité de Léa Parcy dans la boutique Fleur Chic Amande. Et on va parler un peu de Saint-Valentin. Alors qu'est-ce qui fait le cœur du produit de la Saint-Valentin? On l'a dit tout à l'heure, un peu les roses, mais est-ce qu'il y a d'autres incontournables? Est-ce que, enfin voilà, et les roses sous quelle forme?
Oui, l'incontournable, c'est vraiment la rose rouge. Après, le bouquet de roses un peu multicolore, et puis maintenant même d'autres fleurs. Du rouge principalement quand même, vraiment. Il faut quand même qu'il y ait une touche de rouge dans le bouquet.
Oui, ça c'est la symbolique des couleurs avec les fleurs, c'est
oui,
ça.
Oui, je pense que ça, on y tient encore beaucoup. Surtout, voilà, ça symbolise l'amour. Pour la Saint-Valentin, c'est un peu l'incontournable.
Et alors, quelles couleurs il faut éviter pour la Saint-Valentin?
Alors, j'ai pas de couleurs à éviter, mais souvent, on dit que le jaune, c'est pas top quand même, les roses jaunes.
Mais est-ce que ça se fait encore, du coup, d'offrir un bouquet pour s'adulciner ou...
Oui.
Pour la Saint-Valentin il...
Voilà. Saint-Valentin, c'est la seule journée où je vais avoir que des hommes. Vraiment, c'est...
Et donc les femmes n'offrent pas de fleurs aux
hommes? Si, elles offrent des fleurs, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus d'hommes dans le magasin. Et c'est bien parce qu'on ne les voit pas trop le reste de l'année.
Et ils viennent donc le jour de la Saint-Valentin, le 14, ou ils viennent un petit peu
ça
la
dépend
veille ou le lendemain?
Ça tombe. Donc là, ça tombe un mardi. Ils vont venir la veille, le lundi, puis le mardi en fin de journée, en sortant du travail...
Et le profil de vos clients pour la Saint-Valentin, tous les âges?
Oui, à tous les âges. Il y a vraiment des enfants qui sont encore à l'école, qui vont venir chercher une petite rose pour leur copine, aux personnes âgées. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment mélangé à la Saint-Valentin.
Alors finalement, est-ce que la taille du bouquet influe sur la taille de l'amour qu'on peut avoir pour une personne? Forcément, là il y en a deux qui rigolent. Quoi.
Avoue que ta question porte à confusion.
Non, mais justement, c'était la fleur unique. En fait, c'était ça ma question, c'était de se dire est-ce que vous vendez beaucoup de roses, justement, juste la fleur,
oui,
la rose
dire,
rouge.
On vend beaucoup ce jour-là quand même, voilà. Encore à l'unité, juste voilà. Une rose.
Voilà,
c'est pas
la taille du bouquet qui c'est pas la taille du bouquet qui compte, c'est ça qui
c'est l'intention. Et est-ce que du coup les gens vous parlent un petit peu de leur vie? Est-ce que c'est un moment où on se confie ou pas, on achète juste la rose?
Alors
ou est-ce
bizarrement
qu'ils parlent un petit peu de leur compagne justement.
Ben bizarrement ils me parlent plus de leur vie le reste de l'année, mais les hommes souvent ils sont quand même vraiment plus réservés que les femmes, donc ils se parlent pas trop souvent. En plus il y a du monde en magasin ce jour-là, donc ça va, c'est rapide quoi.
Parce que les femmes, sinon, elles vous parlent, enfin, elles
un se confient. Un peu plus, oui, ah, oui. Elles sont un peu plus bavardes.
D'accord. Mais des choses personnelles ou...
Ça dépend des clientes. Il y en a, oui. Après, ça peut aller juste à me raconter qu'elles ont une plante qui est malade. Donc, ça va partir sur des conseils. Et il y en a d'autres qui se confient un peu plus parce qu'ils ont besoin de parler. Et... Voilà.
Et alors, ces fleurs, pour la Saint-Valentin, vous avez des commandes particulières, vous avez un volume particulier, vous savez que vous allez avoir plus de clients que d'habitude ou pas particulièrement?
Moi, je n'ai pas énormément de recul, donc je me base sur les années précédentes. Après, comme je disais tout à l'heure, le jour de la semaine compte beaucoup. Ça va être différent d'un dimanche, par exemple. Et après, demande particulière, oui, je fais depuis 2 ans des petits déjeuners livrés le jour de la Saint-Valentin. Et après, voilà, il y a des hommes qui ont envie d'être plus originaux, qui m'appellent avant pour faire une commande un peu plus spéciale. Ça peut être des bouquets avec une forme différente.
Pour que nos auditrices qui éventuellement auraient une commande en prévision,
ça
arrive aussi d'avoir quelque chose à ajouter au bouquet, un bijou par exemple, à intégrer dans le bouquet.
C'est bien ça.
J'ai pas les notes.
Donc le bijou.
Voilà, bijoux à intégrer au bouquet. Pour la Saint-Valentin, j'ai eu que ça pour l'instant, des choses à intégrer.
Et donc, vous disiez les petits déjeuners, c'est quoi le principe?
En fait, on fait quand même normalement des livraisons. Et pour la Saint-Valentin, je trouvais que c'était pas mal de faire la surprise d'arriver tôt le matin avec le petit déjeuner. Donc, il y a des viennoiseries, un jus de fruits et puis il y a le bouquet que la personne aura commandé avec le petit déjeuner.
C'est
super
sympa.
Idée, en tout cas. Ouais. Vous manquez pas d'inspiration.
Ça veut dire que le 14 au matin, le lever est tôt.
Oui, généralement les jours de fête, oui, on se lève assez tôt, mais tout soit prêt.
Vous avez fait combien de ce type de produits? Vous l'avez vendu à beaucoup de gens l'année dernière, par exemple?
L'an dernier, non, parce que c'était le début. Puis bon, c'est vrai qu'au niveau de la publicité, on peut pas toujours faire ce qu'on a envie. Donc ça, c'est quand on est à une quinzaine de petits déjeuners. Mais voilà, j'espère.
Il faut aller les livrer après.
Oui.
Dans ces moments-là, du coup, vous êtes. Vous avez du renfort? Enfin, il y a quelqu'un qui tient la boutique.
De fait, moi, je reste à la boutique et puis pour les livraisons, j'ai quelqu'un qui m'aide. Oui.
Ouais, ça, c'est une belle idée, en tous les cas, de recevoir son petit déjeuner.
Ça change aussi. C'est vrai que c'est original.
Bon, et d'autres, vous avez d'autres petites choses que vous avez peut-être en déco aussi pour la Saint-Valentin? Non, rien de particulier.
Spécialement Saint-Valentin, non, j'ai pas de. C'est des objets qui vont pouvoir être offerts, oui, pour la Saint-Valentin, mais ça reste quand même les fleurs coupées à la Saint-Valentin. Moins de plantes et moins de déco.
Oui, parce qu'après
fleurs fraîches, la rose stabilisée, comme on disait tout à l'heure aussi.
Oui, la belle plante, ça peut être mal compris par la personne qui le reçoit.
C'est vrai.
D'accord, non, mais effectivement, c'est un beau. C'est un moment aussi, effectivement, on a envie d'offrir des fleurs, on a envie aussi d'offrir des cadeaux, même si effectivement on dit que c'est une fête un peu commerciale et que la Saint-Valentin, il faudrait qu'on la fête tous les jours. Mais
quand on fait le bouquet ou quand on va le livrer, c'est toujours agréable de penser à la personne qui va être surprise ou contente d'avoir eu ce cadeau-là, c'est pas mal.
Et vous, messieurs, vous allez faire plaisir ou pas?
Oui.
Et tu as dit, Eric?
Oui, bien sûr.
D'accord. On ne dévoilera pas, on n'ira pas plus loin pour ne pas dévoiler les surprises.
Non, ça, on pourrait, hein. Mais et alors, comment on fait pour... Donc, votre boutique, elle est ouverte de quand à quand? Comment on vient vous voir?
Les horaires normaux, c'est du mardi au samedi et puis le dimanche matin. La Saint-Valentin tombe un mardi, donc le lundi, je serai là également. On peut m'appeler, m'envoyer. Je suis sur Facebook également, donc des fois, des messages.
Voilà, donc on peut vous réserver les petits déjeuners.
Voilà, c'est toujours les jours de fête de commander pour attendre moins en magasin et pour être servi plus vite. Mais,
voilà, et on peut, si on a des demandes particulières, donc on l'a dit, installer un bijou dans la compo. Enfin voilà, tout ça est possible, mais il faut
Du chocolat, non?
Oui, chocolat aussi, c'est arrivé, oui.
Et voilà. Ouais. Donc Anne-Marie a lancé ses
bijoux, chocolat, fleurs.
C'est pas forcément pour moi.
Petit déjeuner, voilà. Bon.
Je suis solidaire.
Bien, alors justement, Anne-Marie, on reparlera peut-être un petit peu avec vous à la toute fin de l'émission sur. On rappellera ces façons de venir dans votre boutique. Anne-Marie, on va parler agriculture juste après ma virgule que je vais lancer à la main. Hein. Comme ça. Donc il est question de revenus, enfin de comment les agriculteurs vendent leurs produits et les vendent de façon à se rémunérer correctement.
Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un problème, on va dire, d'actualité. On le sait, dernièrement, il y a quand même eu la crise de l'élevage et la crise laitière qui ont mis à mal beaucoup de production. Et bon, sachant qu'en Lozère, il y a quand même pas mal d'agriculteurs. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'en parler, d'autant plus que donc, la France agricole... magazine.
On ne peut plus diffuser dans nos campagnes.
Voilà, donc là c'est le dernier numéro sorti donc le 3 février et justement en une c'est éleveur, il retrouve du poids face aux transformateurs. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Donc voilà, en fait le but de ma chronique c'est plutôt de vous donner quelques exemples, de voir comment justement certains éleveurs, mais pas que des éleveurs hein, d'ailleurs, des agriculteurs en règle générale, que ce soit maraîchers, éleveurs, producteurs laitiers, font pour s'en sortir et pour rester peut-être un peu plus maître des prix et donc éviter de passer par la grande distribution puisque c'est elle qui va plutôt justement ajuster les prix. Alors donc la France agricole nous évoque... Alors, c'est un collectif qui s'est créé, qui s'appelle donc En Direct des éleveurs, un groupe de 9 exploitations donc de Loire-Atlantique et de Poitou-Charentes. Donc, ils se sont réunis pour créer leur propre entreprise et monter leur site de transformation de lait. Ils ont pu ainsi, comme ça, s'affranchir de leurs collecteurs. Après 4 ans d'études, donc le magazine nous révèle que les éleveurs se sont lancés en septembre 2016. Donc, c'est quelque chose de très récent. Aujourd'hui, 90% des volumes sont vendus dans les magasins Leclerc Sud Système U du Grand Ouest. Les enseignes ont été partenaires dans le montage du projet. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Effectivement, c'est de travailler main dans la main avec certaines grandes surfaces ou moyennes surfaces d'ailleurs. Donc le choix s'est orienté vers un lait sans OGM, sans huile de palme, le tout dans un emballage innovant, hein, une poche souple, éco-conçue et 100% recyclable. Et les producteurs sont identifiés photo sur leur site à l'appui. Je pense que ça aussi c'est important pour le consommateur de savoir où a été fait ce lait, dans quelle exploitation. Et donc il y en a un qui nous explique que nous leur avons vendu un produit, nous ne leur avons pas vendu un prix. Dans le contrat, il est ancré que nous devons vivre décemment. Et ça, je pense que c'est aussi une piste à travailler en ce moment, puisqu'on le sait, les agriculteurs ne vivent pas de leur métier, mais vivent aujourd'hui des subventions. Donc voilà, là, ils le disent, nous, on veut vivre décemment et les enseignes n'ont par exemple pas le droit aux promotions sur ces produits laitiers. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un exemple, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes, mais on en a aussi...
Chez nous, il y a Montlais.
Il y a mon lait, justement. Ouais, tout à fait. Je voulais en parler. Effectivement, il y a mon lait. Alors, il n'y a pas qu'en Lozère, puisque c'est le Massif central. Mais c'est ce qu'ils disent sur leur site internet, c'est que le consommateur devient finalement citoyen et on s'engage en achetant justement donc cette brique Mon Lait à maintenir et à développer l'économie rurale. Voilà, en sachant que forcément c'est peut-être un peu plus cher que une autre brique de lait, mais on sait pourquoi aussi on met un petit peu plus d'argent. Bon, après c'est quelques centimes. Voilà. Donc il y a mon lait, il y a aussi la map du Gévaudan, par exemple, amande. Eric, toi, tu passes par...
Oui. Nous, on passe par la map, on prend un panier toutes les semaines.
C'est ça, c'est toutes les semaines, donc c'est le mercredi, je crois,
oui, c'est ça.
Devant la halle Saint-Jean. Donc la map du Gévaudan, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. Donc voilà, encore une fois, des agriculteurs ne passent pas par un intermédiaire qui est par exemple à une grande surface. Ils vendent directement aux consommateurs. Ça permet une plus grande proximité. Puis je suppose aussi des conseils, toi Eric, si tu as l'habitude.
Ça. De temps en temps, on a des conseils. Mais voilà, on s'engage à prendre tant de paniers à telle date. Là, c'est les fruits et légumes. Il y a aussi de la viande,
du laitage. Du pain, du miel, des œufs, c'est ça, du fromage.
Donc c'est de temps en temps, on s'échange les recettes.
Ça t'oblige à peut-être cuisiner des légumes ou des plats que tu ne cuisinerais pas.
Il y a certains légumes que j'avais jamais cuisinés. Ouais, c'est ça. Et puis on fait suivant avec les saisons. Moi, c'est vrai que les blettes, j'étais pas forcément un grand fan des blettes.
Oh, j'adore ça, moi.
Disons que j'en achetais jamais. Ouais. Ça faisait pas partie, forcément. Donc c'est vrai que... Ouais. On a pris. Voilà.
Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut ça aussi, il veut cette relation, bah, un petit peu comme avec vous, Léa. C'est une relation consommateur et professionnelle qui est importante, je pense, aujourd'hui. Alors, on parle agriculture, mais on peut parler de vous, Léa, fleuriste. Je pense que c'est indispensable.
Je pense que oui, c'est tout l'artisanat, c'est un peu comme ça. Les gens aiment bien avoir le contact avec leur artisan ou leur agriculteur. Ils savent comment c'est fait, d'où ça vient.
Il y a une certaine traçabilité, effectivement, chose qu'on n'avait pas forcément avant. Alors, on a parlé de la MAP, il y a aussi la maison des paysans, que ce soit à Mende ou à Saint-Chély-d'Apcher. Le principe, c'est le même, donc il n'y a pas de grande distribution. Ils ont un local, une boutique, et ils vendent leurs produits directement aux consommateurs. Et ainsi, ils maîtrisent le prix. C'est eux qui décident, moi je ne sais pas, le pâté, il vaut 3,50 €. Ce n'est pas la grande distribution qui dira ça vaut 3,70 €.
Donc voilà, ça, le principe important. Là, c'est qu'il y ait, que chaque agriculteur tienne la boutique au moins un jour par semaine. Il y a une rotation. C'est-à-dire que même eux, directement, on les voit directement. Ce n'est pas forcément tous les jours. Oui. On ne verra pas forcément le spécialiste de ce qu'on vient chercher chaque jour. Mais on peut discuter avec eux aussi dans la maison des paysans.
Et alors, dernier exemple en date, il y a un agriculteur qui s'est installé l'an dernier sur une exploitation familiale. C'est Christophe Boursier. Et alors, je trouve que son projet est super intéressant, super innovant. Il propose depuis quelques jours un site internet, donc c'est carnilia.fr. Et il vend donc directement ses produits, en sachant que lui, il est éleveur d'Aubrac et Aubrac charolaise, donc il y a des croisés, et il fait aussi des ports de plein air. Et donc, en fait, on choisit la pièce que l'on souhaite, le poids aussi que l'on souhaite, et donc forcément, on a directement le prix. Et voilà, c'est là aussi une proximité. Là encore, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous venez chercher donc votre colis dans sa ferme sur la commune de Riotor, soit il vous livre pour minimum 70 €, je crois, de commande. Voilà. Et en sachant que, pareil, lui aussi maîtrise le prix et on sait d'où ça vient. On sait aussi comment les bêtes sont élevées, qu'est-ce qu'elles mangent. Je pense que voilà, c'est important. Et comme il me le disait hier, il y a aussi des personnes qui lui posent des questions sur les antibiotiques. Est-ce que les vaches ont des antibiotiques? Lui seul est à même de répondre. C'est pas en achetant de la viande dans une grande distribution qu'on saura si la bête a pris des antibiotiques ou pas. Voilà.
Si, après, je crois, Amande, par contre, on a eu un moyen de distribution qui est assez unique en France, c'est justement le distributeur de lait, là, la sortie.
Oui,
directement fait par un producteur.
Il y en a dans différentes.
C'était un des premiers qui
l'a fait. Oui, mais ça se fait de plus en plus, effectivement, maintenant, on peut y mettre même des légumes. Alors, pas encore Amande, mais ça se fait de plus en plus, effectivement, ces sortes de distributeurs où on peut venir chercher quand on veut ces produits.
Bien, merci Anne-Marie de nous avoir parlé de produits et de façon d'avoir un lien direct avec ces producteurs.
Oui, puis je pense encore une fois que c'est vraiment une piste à creuser pour les agriculteurs. S'ils veulent rester maîtres de leur destin et pouvoir vivre décemment, il faut aussi qu'ils fassent ça de plus en plus.
Bien, alors dans un instant, c'est le moment habituel dans cette émission, la chronique hashtag, juste après ça. On se retrouve donc tout de suite pour cette chronique hashtag. Et avant de voir les hashtags de la semaine, on va parler fake news.
Oui, alors aujourd'hui j'ai voulu vous parler de ce vaste sujet qui est celui de ce qu'on appelle les fake news, donc en français les fausses informations, et surtout de la lutte contre du coup la viralité de ces fausses informations. Alors avec un article du Monde Économie aujourd'hui, qui parle de 8 médias français qui s'allient aux géants Facebook pour lutter contre la viralité des fake news sur ce réseau social. Donc l'idée, c'est de, en quelques mots, de déployer un dispositif de signalement par les utilisateurs du réseau social sur des informations qui pourraient être fausses et qui, du coup, seraient ensuite vérifiées par ces 8 médias français. Qui vérifierait en gros pour les internautes la véracité de l'information et donc qui permettrait de notifier aux utilisateurs si cette information est vérifiée, si elle est du coup en cours de vérification et en cours d'analyse, ou si elle est fausse et fléchée comme fausse. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, concrètement, l'idée, c'est de déployer ce dispositif et de faire en sorte que si jamais l'information se révèle fausse et est annoncée fausse par au moins 2 des 8 médias en question, du coup, un message et une notification apparaîtra et limitera en fait la viralité du message. L'idée, c'est qu'en fait, ça puisse aussi jouer sur les algorithmes. Vous savez, derrière l'ensemble des réseaux sociaux qu'on utilise, il y a des algorithmes. Et donc, du coup, le fait de signaler cette information comme fausse jouerait sur l'algorithme. Et donc, l'information ne remonterait pas en priorité dans des moteurs de recherche. Et du coup, cela limiterait la viralité de cette fausse information.
Mais comment ça se passe ? C'est moi, personnellement, qui peux demander la vérification ou c'est... À force, une information que ces journaux n'auraient pas eue, qui la vérifie et...
Non, alors là, dans le cadre de cette expérimentation, parce que pour l'instant, c'est une expérimentation, ça soulève beaucoup de questions, évidemment, ça soulève la question de la censure, ça soulève la question aussi du travail des 8 médias pour Facebook, puisque du coup, il y a aussi un débat qui est autour du fait que Facebook, en proposant cette expérimentation, déplace la responsabilité sur les 8 autres médias associés au réseau social. Donc ce n'est plus à lui de vérifier l'information, mais aux 8 autres médias français, qui par ailleurs sont, pour information, du coup l'AFP, l'Agence France Presse, BFM, France Télévisions, France Média Monde, L'Express, Libération et 20 Minutes. Donc il y a plein de débats autour de ça, mais aujourd'hui, le cadre de l'expérimentation, il est celui-ci, toi ou moi, si on fait une recherche ou que du coup sur notre fil d'actualité, on a une information qui nous semble inexacte, on la signale en fait à ce groupement de médias qui eux vérifient par croisement de sources et par recroisement d'informations si cette source est vérifiée, si cette information est vérifiée. Et du coup, à partir de là, l'information est déclarée fausse si elle n'est pas vérifiée ou déclarée comme fausse par au minimum 2 de ces grands médias.
Et alors, l'information, c'est le poste de Monsieur Tout le Monde qui dit « Ah tiens, j'ai vu un camion être bloqué par la neige sur telle route ce matin » ou c'est forcément des articles sur des sites
Alors aujourd'hui, le cadre de l'expérimentation, c'est celui-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit dans l'article. En gros, c'est un signalement de liens, donc de liens d'articles et de liens d'informations, et donc qui relève d'un site X ou Y. L'idée, c'est surtout, en fait, au-delà de l'information elle-même, c'est de flécher des sites qui potentiellement... Alors, par exemple, on a un exemple ici avec un autre outil qui s'appelle le Décodex, qui est un outil, du coup, développé aussi par Le Monde, où l'objectif, en fait, c'est de flécher des sites militants, des sites... d'extrême droite, par exemple. Il y a un site dont on parle là dans cet article, qui est le site je vais vous le chercher, qui est le site ivg.net, et qui est en fait un site de militants anti-avortement qui fait de la fausse information et du relais de fausses informations sur l'accompagnement de la grossesse et de l'avortement. Voilà, c'est plutôt l'objectif de flécher ces sites-là plutôt que de flécher des informations en tant que telles pure et dure, quoi. En tout cas, aujourd'hui, dans le cadre de cette expérimentation.
Mais est-ce que c'est leur rôle, finalement, de faire ça ?
Alors, là est toute la question, en effet. Alors, en fait, là, pour l'instant, l'idée, c'est de voir comment ça peut fonctionner. Mais c'est pas... Une des principales questions du débat, c'est de dire, est-ce que c'est le rôle de ces médias-là de vérifier l'information relayée sur le réseau social Facebook ? Ou est-ce que c'est la responsabilité du réseau social en lui-même ? Voilà, c'est tout l'enjeu. Alors après, ce qui est précisé dans cet article du Monde, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte d'essayer de travailler en bonne intelligence entre ces 8 médias et Facebook pour essayer de faire en sorte de commencer à lutter, ou en tout cas de continuer à lutter contre ces relais de fausses informations et d'essayer de trouver des pistes. Après, ça ne sera pas forcément la solution. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de travailler main dans la main pour lutter en tout cas contre la viralité de ces faux sites d'information.
Oui, c'est un peu une réponse à ce que Guillaume nous parlait la semaine dernière là, sur les fausses informations qui étaient lancées surtout depuis la Russie, a priori, sur les États-Unis ou sur les États-Unis, sur les pro-Trump en France. Donc c'est certainement une réponse à tout ça. Ouais.
Oui. Voilà. Oui, et puis bah oui, autant effectivement faire en sorte que l'info qui circule sur ces réseaux sociaux soit aussi vérifiée, enfin qu'il y ait pas, enfin voilà, on sait que ça a un impact qui peut être important à la fois sur l'inconscient collectif et sur après des choix qui peuvent être d'ordre politique, d'ordre...
C'est vrai qu'on n'apprend pas forcément à les utiliser, tous ces réseaux sociaux. Moi, je vois, j'ai ma maman qui commence à s'y mettre un petit peu, mais dès qu'on lui fait passer une information, elle me la relaie. Et elle ne va pas forcément vérifier si c'est quelque chose de vrai. Si, et donc, c'est vrai que c'est peut-être ce genre d'outils qui vont l'aider à voir et à pas continuer, elle, à relayer une fausse information.
Alors, il y a plein d'expérimentations. Il n'y a pas que celle-là qui est en train de se mettre en place. Google a aussi lancé sa propre plateforme de vérification d'informations, aussi en partenariat d'ailleurs avec Facebook. Je le disais, Le Monde lance aussi leur propre outil pour aider les lecteurs à repérer les sites qui sont moins fiables. Donc, l'outil s'appelle Décodex. Et du coup, l'idée, c'est qu'en effet, derrière, ils ont une banque de données de 600 sites aujourd'hui repérés comme potentiellement manipulatoires ou propagandistes. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi conseiller les internautes au maximum pour les outiller, en tout cas, à la vérification d'informations. Après, c'est que le début. Il y a plein d'initiatives, du coup, qui se mettent en place. Aujourd'hui, dans l'actualité, c'est aussi un événement qui s'appelle le Safer Internet Day, qui du coup est un événement autour de l'Internet plus sécuritaire de même. Sécuritaire dans le sens pour les internautes, pour tout ce qui concerne justement les fausses informations, la vérification des sources. Donc voilà, le gouvernement aussi se penche sur cette question. Et au-delà des expérimentations qui naissent à droite à gauche, je pense que c'est un véritable du coup, mouvement qu'il faudra suivre. Et ça va changer aussi le monde des médias demain et le relais des informations demain.
Les hashtags de la semaine.
Les hashtags de la semaine, ça sera très rapide. Vous en doutez, on fait un petit sondage autour de la table. Guillaume, le hashtag de la semaine.
Je ne sais pas. Saint-Valentin, non, c'est pas
non, grand. Pas du tout, non.
Pénélope.
Presque. Mais...
Fillon.
Voilà, le hashtag de la semaine, évidemment, c'est Fillon. Et le hashtag en Lozère, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Donc voilà, on est toujours sur l'idée des vacances, l'idée de la neige, mais voilà. J'invite les Lozériens à tweeter plus, à suivre l'actu sur Twitter aussi, parce qu'on a toujours un petit peu les mêmes comptes qui sont actifs sur Twitter à l'échelle de la Lozère. Et c'est souvent du coup des comptes plutôt en lien avec le tourisme, ce qui est chouette. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas. Je pense aussi aux agriculteurs et aux nouvelles technologies. Il y a plein de choses à faire aussi avec ces relais-là d'informations et ces réseaux-là de communication. Donc allez-y sur Twitter, les Lozériens et les Lozériennes.
Je crois que notre invitée, elle utilise bien Facebook, non ?
Facebook, oui, mais Twitter, j'avoue que...
Pas encore.
Non. Voilà, bon. Voilà, merci Adeline. Deuxième coupure musicale, on vous propose Clope El Gag. Voilà, c'est un petit clin d'œil à notre émission du dimanche soir avec Olivia, le festivalier.
Être dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connue en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Je veux m'évader, je suis allée manger toujours la même chose. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. J'aime ton souvenir comme le chocolat. quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, 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 elle est partie,
musicale a été consacrée à Twitter hein, dans notre studio. Ça a discuté sévère sur l'usage de cet outil. Hein. On vous rappelle que Adeline,
on va faire un petit tuto Twitter à nouveau. Oui. Alors, oui. On avait fait la première émission sur,
tout à fait.
Sur le tuto Twitter, mais on pourra refaire ça. Puis en plus, il y a eu plein d'évolutions sur Twitter, donc
mais
on
oui.
pourra en reparler prochainement.
On parlera peut-être même d'autres réseaux aussi. On avait dit qu'on en parlerait. C'est... Ouais. Alors, on commence cette revue de presse, et c'est Eric qui commence avec un anniversaire.
C'est ça, un anniversaire. Donc, aujourd'hui, la ville de Maastricht, petite ville donc, du sud des Pays-Bas, commémore aujourd'hui les 25 ans du célèbre traité européen. Donc, c'était un moment historique, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc communiste, qui suscitait à l'époque donc, beaucoup de questionnements, et qui a été signé par 12 pays. Donc, juste pour rappel, les 12 pays, c'était l'Allemagne, donc la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni, qui déjà posait problème, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Donc, depuis, il y a beaucoup de pays qui se sont rattachés à ces 12-là, vu que ça a plus que doublé, on est passé à 28. Il faut savoir donc qu'au départ, donc, le projet de l'Union européenne, c'était autour de trois piliers qui étaient les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Et ça a aussi créé une citoyenneté européenne, c'est-à-dire que maintenant on peut se déplacer plus librement en Europe. Le problème, c'est que ce qui a pris le dessus, ça a été un peu plus donc, le côté économique donc, qui a été demandé, la stabilité des prix, la capacité d'emprunt et la stabilité des finances publiques. Donc 25 ans plus tard, qu'est devenu ce traité ? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 25 ans, on a fêté ce traité avec une jolie coupe de champagne et que cette année, on essaye plutôt de cacher qu'en fait le traité. Donc entre-temps, il y a eu donc différentes crises. Donc la crise de l'euro, la crise de la Grèce, la crise des migrations et donc la Grande-Bretagne qui vient de décider de claquer la porte. Voilà, donc à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, donc le problème c'est que les citoyens sont plus trop en connexion avec les politiques. Et donc c'est ça qui repose le problème. Donc nous n'avons pas besoin de moins d'Europe, à mon avis, mais besoin d'une Europe différente, d'une autre Europe. Donc ce rêve imaginé il y a 25 ans donc, est désormais à un tournant et peut se ranimer ou s'éteindre. Mais quand on observe ce qui se passe aux États-Unis, il est peut-être nécessaire que le rêve européen existe toujours.
Ouais. Bien, merci Eric. Effectivement, le rêve européen a peut-être réenchanté.
C'est ça.
On poursuit, et c'est moi qui poursuis, avec les vocations d'une actualité qui moi je trouve enfin m'a quand même beaucoup marqué je trouve ces derniers jours et voilà je voulais en parler aujourd'hui sans forcément prendre forcément parti non plus parce que on sait pas forcément tout de cette situation pour autant autant de violence et une situation enfin et des conclusions médicales à ce point-là pour Bon, pour cette histoire, hein, je parle de jeune Théo, jeune homme de 22 ans qui a été qui a eu une interpellation un peu musclée, on va dire, avec les forces de police à Aulnay-sous-Bois. Voilà, donc c'était voilà, moi je trouve que effectivement il y a quand même, ça fait un petit peu peur, je me dis. Donc voilà, je voulais juste dire ça. C'était, je voulais pas forcément dire plus. Voilà, je mettrai sur le lien Facebook l'article du Monde qui reprend la marche qui a eu lieu hier à Aulnay-sous-Bois, qui s'est passée sans débordement, même si 24 personnes ont été interpellées. Voilà, donc c'était voilà, c'était l'occasion de dire ça. Il y a le témoignage dans cet article du jeune homme qui bon voilà, c'est son témoignage, donc je vais pas aujourd'hui en juger, et voilà, je pense que lui, le défenseur des droits, s'est positionné. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait un avis sur cette question et qu'il puisse mener une enquête pour regarder les choses de façon claire. Mais voilà, je crois qu'effectivement, c'est...
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a quand même 60 jours d'ITT.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je crois qu'effectivement... voilà, et puis bon, je pense que... Ça a dû quand même... Enfin, ça m'étonnerait que ça ne puisse pas être volontaire. Voilà. Je vais dire ça comme ça.
Non, il s'est assis dessus.
voilà, c'est ça.
Je ne comprends pas.
Voilà. C'était mon petit coup de gueule.
Ça ouvre plein d'autres questions. J'attendais aussi des débats, du coup, sur... le fait de pouvoir systématiser la vidéo embarquée sur les forces de police, etc. Bien donc c'est vrai qu'au-delà de ce fait divers qui est extrêmement triste, mais voilà, ça ouvre aussi plein de questions de société. Donc ça sera à suivre en effet, peut-être dans d'autres revues de presse
tout à fait
à venir. Sans transition.
Sans aucune transition.
Aucune transition.
De toute façon, dans la revue de presse, il n'y a jamais de transition. Hein.
Je suis branchée numérique et politique en ce moment.
Hein, oui, hein.
Donc je vous parle d'une actu qui date de ce week-end, puisque du coup ce dimanche, le candidat à la présidentielle de la France insoumise, donc Monsieur Mélenchon, était attendu pour son tour de force technologique. Vous savez, l'épicentre politique ce week-end, c'était Lyon, avec plusieurs meetings de candidats à la présidentielle. Et puis, au milieu, donc, le meeting de Monsieur Mélenchon, mais la spécificité, c'était qu'il était donc à deux endroits en parallèle. En effet, le premier à Lyon, si vous vouliez voir Jean-Luc Mélenchon en chair et en os, et puis le second à Paris, en version virtuelle du candidat. Alors, j'ai pas regardé l'échange, mais j'ai entendu le début de son intervention, où du coup, l'idée, c'était qu'il arrive en guest star sur la scène à Lyon en criant « Où suis-je ?». Et au même moment, il claque des doigts et dans un effet de lumière, il apparaît en hologramme sur la scène du coup d'Aubervilliers en live, où du coup... à nouveau une salle en liesse pleine de militants étaient présents pour assister à son débat. Alors tout d'abord, déjà, je rentrerai pas dans le fond de son échange, mais quand même, on peut quand même saluer la prouesse technique, même si ça a déjà été fait. C'est quand même techniquement une reproduction qui a été assez bien faite. Tout le monde s'est accordé sur le fait que c'était extrêmement réaliste.
Ça a déjà été fait en direct ? Parce que moi, j'avais entendu dire que ça avait déjà été fait, mais en différé, enregistré.
C'est ça. Ça a déjà été fait en différé et ou en léger différé. En tout cas, pas en direct en même temps.
Le président indien utilise ça très, très souvent, en fait.
Mais pas en direct, en fait.
Non, mais pas en
apparemment,
direct.
Apparemment, c'était la première mondiale, du coup, en direct, complètement synchronisée. Voilà, donc du coup, évidemment, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Le candidat peut se vanter d'avoir eu deux fois plus d'auditeurs, du coup, et de participants à ces meetings que les autres candidats du week-end. Le seul risque à soulever, en effet, c'est qu'on s'arrête à parler de cette prouesse technologique et non du fond du débat. Donc du coup, ça m'a juste donné envie d'aller creuser un petit peu juste sur les propositions en lien avec le numérique de Monsieur Mélenchon. Donc du coup, juste pour vous dire, allez creuser, on mettra l'article sur notre page aussi, sur ces propositions principales, du coup, autour du numérique. Il y a plein de choses dont on a déjà parlé dans ces émissions, dans ces magazines, la neutralité du net notamment, par exemple. tout ce qui relève de la fracture numérique, de la protection des données. Je ne vous en dis pas plus, mais allez creuser, on vous mettra les liens. Voilà. Ça valait le coup, en tout cas, du coup, au moins pour s'intéresser à ces propositions en lien avec les nouvelles technologies, puisqu'ils surfent dessus en termes de communication politique.
Et pour aller voter, il va voter lui-même ou c'est son hologramme qui...
Alors, par contre, voilà, ça pose la question de est-ce qu'on peut voter deux fois pour soi et pour son hologramme. Non, mais oui, voilà.
Oui, puis après, moi aussi, j'ai du mal avec... on veut être un peu plus proche du peuple et on fait des conférences à 500 km. Donc, je ne sais pas comment il fait pour rencontrer les vrais gens.
Et après, par contre, techniquement, c'était, semble-t-il, beaucoup plus réussi que le fameux concert avec, Dalida, Joe Dassin, je ne sais plus, enfin, qu'est-ce qu'il y avait.
Claude François aussi,
oui, voilà. Ou qui, lui, semble-t-il, était vraiment très... Enfin, était très, très... mal réussi en termes de...
Donc Mélenchon a peut-être trouvé une voie, là, s'il veut se reconvertir après l'élection présidentielle.
Techniquement, c'était apparemment impressionnant.
Voilà. Anne-Marie, pour terminer, proposition...
Alors pour cette revue de presse, j'ai choisi de vous parler d'un magazine intitulé « Ça fait du bien de rêver », un magazine que vous retrouvez exclusivement sur 48FM, donc vous avez un peu de chance. Et je vais vous parler donc de l'article « La SPP ouvre ses portes ce week-end ». Donc ma première question, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que la SPP ? Donc il y a la SPA, la Société protectrice des animaux, et il y a la SPP, c'est la Société protectrice des politiciens. Certains abandonnés trouvent ainsi refuge dans cet établissement qui compte une aile droite et une aile gauche. Et au vu de l'ampleur des abandons de ces derniers temps, la SPP organise donc ce week-end des portes ouvertes. Et comme j'ai peu de temps, Guillaume, tu m'as dit qu'il y avait une ou deux minutes, je vais juste m'arrêter sur l'aile droite de cette SPP. L'article en question nous explique les particularités de chacun de ces pensionnaires pour qu'on puisse évidemment l'adopter. Et pour ne créer aucun favoritisme, on ne connaît pas l'identité de ces hommes, juste la première lettre de leur nom. Ainsi, le journaliste nous apprend qu'il y a un certain S, lâchement abandonné un soir de premier tour de la primaire de la droite. Petit et parfois hargneux, il lui faudra beaucoup de place dans son futur foyer. Et sachez qu'il apprécie tout particulièrement le climat tempéré de Neuilly-sur-Seine. Abandonné ce même soir du premier tour de la primaire de la droite, un certain C a besoin d'attention et mange exclusivement des pains au chocolat au petit déjeuner. Lui, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est un certain F. On nous apprend qu'il n'est pas le plus joyeux de la bande. Assez austère, il se fait plus doux quand on lui présente des rillettes. Mais attention à ne pas le laisser seul dans une pièce avec une tirelire, il serait capable de la chiper et de vous regarder droit dans les yeux en vous disant « Non, c'est la mienne ». Le journaliste arrive presque à nous faire verser une larme lorsqu'il évoque un certain D. À 91 ans, ce dernier aimerait avoir une fin de vie heureuse dans un foyer aimant. Alors si vous êtes passionné d'aéromodélisme, si vous collectionnez les maquettes d'avions et si vous sirotez votre champagne en lisant Le Figaro, alors vous êtes la famille d'accueil parfaite pour D. Le journaliste termine son article sur ce scoop. Il semblerait que l'humoriste Rémi Gaillard ait accepté de s'enfermer dans une cellule aux côtés de ces malheureux politiciens abandonnés pour tenter de faire changer les consciences. Évidemment, ce n'est pas un article que vous trouverez sur les réseaux
Est-ce
sociaux.
Que c'est une fake news.
Voilà, c'est ça.
La boucle est bouclée. On pourra faire un tour de l'aile gauche aussi, peut-être la prochaine
Exactement,
fois.
Exactement, mais encore une fois, je n'avais pas le temps. Et puis, bon, au vu des dernières nouvelles et actualités de ces derniers temps, je me suis dit que c'était bien de se pencher sur l'aile droite.
D'accord.
Très bien. Merci.
Mais pas de favoritisme, pas l'aile gauche aussi. Hein,
oui,
si
parce que nous sommes dans la période où il faut respecter l'équité en plus entre les différents candidats. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Merci Léa Parsi. Donc on vous retrouve dans votre boutique Fleur Chic rue de la République à Mende. Hein, voilà. On peut, comme on l'a dit tout à l'heure, vous commander plein de choses pour la semaine prochaine et puis pour toute l'année finalement. Hein, on l'a dit.
La Saint-Valentin, ça peut
plein,
être tous les jours.
Il y a plein d'occasions pour le faire.
Le petit déjeuner Saint-Valentin se fait peut-être pas tous les jours.
Non. Et pourquoi pas.
Voilà, merci beaucoup. Peut-être on peut reciter aussi votre page Facebook si on veut avoir plus d'infos aussi sur les ateliers dont Anne-Marie et dont vous nous avez parlé.
Oui, merci à vous. Donc la page Facebook, c'est Fleur Chic by Léa. Et vous y retrouverez, je mets des photos assez souvent, les programmes des ateliers, les horaires de fête. Vous y retrouvez toutes les actualités du magasin.
Et merci beaucoup d'être venu nous parler justement de ce que vous faites et de cette fête de la Saint-Valentin. Merci à tous, bonne merci. Quinzaine, merci. Rendez-vous dans 15 jours.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.